heureux celui dont la mémoire repose en paix. Que la terre enfante ou n'enfante pas, que les ruisseaux coulent de miel ou de sang, que notre regard s'aveugle ou s'arrête, notre mémoire est longue. Puisse-t-elle retrouver la cadence de nos 20 ans? Qui rançonnera cette légende de pacotille où des jeunes filles perdaient leurs chevelures dans les fontaines magiques? Qui rançonnera les matins légendaires où le ciel s'ouvrait par le ventre sur des cavaliers blancs? Année de la gazelle, année des sauterelles, année du sabre et du canon, année de la bonne saison. Notre sang garde la saveur de la légende. Voici les lieux, voici les hommes, voici le champ. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
Nous sommes en présence d'Ali Essafi, cinéaste venant du Maroc, en présence de Waib Mortada, cinéaste aussi. Nous sommes dans le lieu de résidence d'Ali Essafi en train de monter un film qui s'appelle La Septième Porte. Nous commençons l'émission par cette porte-là. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Je dois franchir la porte.
Oui. On a franchi la.
Oui, moi j'ai pas encore franchi la vôtre parce que c'est toujours le problème de la porte, c'est les surprises qu'il y a après. Ce qui nous attend de l'autre côté. Par où on commence alors?
Par ce. Peut-être cette septième porte, cette histoire.
Oh là là. Donc c'est un peu long hein, à résumer. L'histoire de la septième porte, en fait, qui est un titre provisoire de ce projet, vient lui-même. C'est un film en fait sur un des plus grands artistes marocains de l'époque post-coloniale, qui a eu beaucoup de problèmes pour faire sa création. Donc il a été marginalisé, censuré, et puis pour résumer, en fait, moi quand j'ai commencé à faire mes recherches, ma recherche pour trouver ses travaux, il n'existait plus dans les réseaux de distribution, ses films ne circulaient plus, le peu de choses qu'il a publiées comme poète, parce qu'il est aussi poète et romancier, il est quand même d'abord poète en fait. Et rien ne circulait plus et en fait il était effacé de la mémoire. Il n'y avait pas une seule photo de lui sur le net, par exemple. en 2008-2009. Il n'y avait plus rien de lui.
Et son nom, c'est ?
Et son nom, c'est Ahmed Bouanani. Ahmed Bouanani, donc, c'est un artiste de la génération qui a vécu à cheval entre l'époque coloniale et l'indépendance. Et donc, ce projet, c'est pour le sortir, en fait, de l'exhumer sa mémoire, exhumer sa création, donc sa présence. Et c'est d'autant plus mérité que lui, en fait, tous ses problèmes, les problèmes qu'il a rencontrés au Maroc, c'est parce que en fait, il s'intéressait qu'à la mémoire. Et donc, tous ses films et tous ses romans, tous ses travaux sont donc liés à la mémoire. Et au Maroc, à ce moment-là, et puis encore aujourd'hui, l'histoire n'était pas encore tout à fait écrite, et donc ça dérangeait beaucoup de monde. Ça dérange le système, parce que pour le système, pour le régime au Maroc, l'histoire commence avec l'indépendance du Maroc. Et donc on a essayé de gommer tout ce qu'il y avait avant.
J'ai dit au vent, tu parcours le monde par les vallées et par les monts. N'as-tu pas vu ce que j'ai vu? Le vent s'est éloigné en hurlant et ne m'a pas répondu.
Voilà l'histoire de la septième porte de ce projet qui est comme je disais tout à l'heure off micro. Un des projets de Bouanani, c'était donc c'est un des énormes recherches qui n'ont pas été éditées. C'est une recherche incroyable sur l'histoire du cinéma au Maroc, pas l'histoire du cinéma marocain, mais l'histoire du cinéma au Maroc, c'est-à-dire que c'est une relecture de l'histoire contemporaine du Maroc à travers le cinéma et qui s'appelle donc La Septième Porte.
Ah ouais.
Et lui-même un hommage à un réalisateur français de l'époque coloniale, il s'appelle Andrés Svoboda, qui était un des rares à avoir fait un film à l'époque coloniale en 1947, qui est basé sur une légende marocaine et pour laquelle il a fait deux versions. C'était une première, il y avait une version arabe et une version française. Donc une version arabe jouée avec des comédiens arabes et une version française jouée avec des comédien français et avec un texte et une narration de Jean Cocteau.
Ah ouais, mm-hmm. Ah, j'en ai très peu entendu parler de
il a été effacé aussi de la mémoire.
Il n'existe plus
Si, il existe. En France, on va le trouver.
En France, il y a des copies de ces deux versions-là.
Des deux versions, je ne sais pas.
Tu ne sais pas, mais en tout cas, il y a
mais de la version française, je suis sûr et certain qu'elle existe, ouais.
D'accord,
ouais.
Ok.
Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent. Voici les lieux, voici les hommes, voici le chant. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
Ahmed Bouraba, journaliste et critique de cinéma. Moi, je suis de la génération qui connaît Ahmed Bouenani depuis pas mal de longtemps, et sa femme surtout, parce que souvent quand on parle, pour moi, quand je parle d'Ahmed, je parle de Naïma. C'est un couple ensemble qui ont fait le cinéma ensemble. Pour moi, ils sont les deux. Maintenant, aussi, ces dernières années, apparaît Touda. Que j'ai entendu parler de Touda, mais je l'ai rencontré que les dernières années. Donc, je découvre aussi une artiste. Donc, c'est une famille d'artistes. Et j'ai des relations intimes avec cette famille à travers le cousin de Touda.
Donc,
ouais. Et le frère de Naïma. Donc, et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Touda quand il dit que son père était effacé. Jamais. Pour moi, il était omniprésent dans le cinéma marocain, était un pionnier du cinéma marocain. C'est lui qui a choisi de se retirer à un moment pour de réflexion, mais toujours, il y avait des hommages, il y avait des livres collectifs dont je suis heureux de participer. Peut-être pour la nouvelle génération, les jeunes qui n'ont pas pu voir les films, parce que nous, au Maroc, on a un grand problème de diffusion de films, et on n'a pas la cinémathèque. Donc même les écoles de cinéma qui sont apparues durant les années 90, on ne montre pas ces films aux jeunes. Mais pour moi, Bouenani n'est pas effacé, était toujours présent, omniprésent dans le cinéma marocain. On ne peut pas parler du cinéma marocain sans parler d'Ahmed Bouenani.
Nous avons levé nos tentes, rassemblé nos troupeaux. Nos chameaux sont bardés, nos chevaux libres d'entrave. Notre mémoire pétrifiée. Heureux celui dont la mémoire repose en paix.
Jour plus analphabète que la veille. Nous ne savons plus nommer les choses, les plantes, les animaux. En gastronomie, par exemple, le cauchemar est vivant. Qui pourrait donner aux ingrédients leur nom? Qui pourrait comprendre, déchiffrer la grande poésie anté-islamique sans avoir recours au lexique et au dictionnaire?
Il a édité une histoire dans la revue légendaire donc, qui a été interdite dans les années 70, qui s'appelle Souffle, donc une histoire qui s'appelle l'analphabète.
Au Maroc, l'entrée dans la modernité fut un processus brutal. C'est donc sur le lit de l'hôpital, il dit qu'on n'est pas allé, on n'est pas analphabète parce qu'on n'est pas allé à l'école afin d'acquérir un savoir du livre. Le savoir du livre, synonyme de culture moderne. Au contraire, on devient analphabète malgré l'école, voire à cause de l'école, lorsqu'on est désormais coupé d'une capacité ancestrale, simplement celle de lire les signes de la nature. Nous ne savons même plus parler, notre vocabulaire miteux tiendrait à peine dans le creux de ma main.
C'est assez radical comme... composition.
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que cette génération, c'est une génération qui a vécu l'enfer, parce qu'elle a vraiment été catapultée d'un monde qui était donc le monde marocain ancien à un nouveau monde qui est la modernité européenne, occidentale. Et donc ils ont subi ça dans leur chair, dans leur et donc quand on est issu de cette génération et qu'on est artiste ou écrivain, c'est encore beaucoup de déchirement, ne serait-ce que la langue déjà. Buonanni par exemple, il a été faire du cinéma parce que il était très frustré de ne pouvoir écrire qu'en français et que le français c'est une langue étrangère au marocain. Et donc c'est comme ça qu'il est allé faire du cinéma, en pensant que le cinéma c'est un langage universel et qu'il pourrait donc exprimer des choses qui peuvent être accessibles aux Marocains dans leur ensemble. Donc c'est une... Il y a énormément de choses à dire sur cette génération et sur cette période. Moi, je crois, oui, qu'il est radical, ça c'est certain. Il est radical, de toute façon, c'est pour ça qu'il a été censuré et marginalisé, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais baissé la tête, qui n'a jamais voulu rentrer ni dans un parti, ni dans un système, ni... c'est un vrai Olivier Sauvage.
Et vu qu'on parle de cinéma, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur sa façon de... son cinéma, ou je ne sais pas, c'est comme ça qu'on pourrait évoquer la chose, mais qu'est-ce que tu pourrais nous raconter pour peut-être donner envie aux personnes qui écoutent ?
Je voulais ajouter quelque chose qui peut-être peut résumer, en fait, lui, toute sa création, là où il réussit, que ce soit le cinéma ou la littérature, c'est en fait c'est sa réflexion globale et sa capacité d'analyse. A fait qu'il a réussi un dilemme qui est donc commun à toute cette génération dont je parlais, qui était, je ne sais plus quel intellectuel, écrivain, sociologue français avait dit une chose qui est très juste par rapport à cette époque et à cette génération. Un Français qui a travaillé au Maroc, il disait que nous étions pris dans une tradition sans lendemain, entre une tradition sans lendemain et une modernité sans racines.
C'est beau ça.
C'est très très juste. Et Buonanni, ce qu'il a réussi, c'est justement de trouver un équilibre à tout ça. Et donc, pour ce faire, donc à chaque fois, il est allé se ressourcer tout le temps dans l'ancien pour créer du moderne. Donc, par exemple, dans son cinéma, dès le début, il va essayer de s'appuyer sur les concepts narratifs populaires, les seuls qu'on avait, parce que nous n'avions pas de littérature ou de théâtre. Donc c'était les conteurs des places, des souks, de marché, les conteurs populaires dans lesquels il a été se ressourcer pour essayer de trouver une forme narrative moderne. Du coup, il réussit cette tradition ancrée, tu vois, dans quelque chose, et une recherche vers utiliser ça comme moteur pour trouver une écriture moderne, non seulement moderne, mais original, c'est-à-dire qui lui appartient, qui appartient, qui vient de son background et de son arrière-plan culturel.
Si tu vois les films de Buanani en entier, en filet, tu vas constater une chose, c'est la mémoire. Buanani, si tu vois tous ses films, il travaille sur la mémoire. Soit les dictons, soit les poèmes, soit les images, Sidi Ali, son rôle, et tout ça. Donc, il est toujours dans la mémoire. Il travaille sur cette mémoire qu'il n'avait pas. Parce que lui aussi, il a dit dans l'interview avec Ali Safi, qu'il n'y avait rien avant l'indépendance. Donc lui, est-ce que c'est vrai qu'on n'avait rien ou il faut chercher ce qu'on avait? Donc il a, dans la mémoire 14, il a travaillé sur les archives des colonisateurs. Il a travaillé aussi sur les images dans plusieurs films. On voit toujours les dictons et les poèmes dans ces films. Mirage, Afifi, il parle toujours des acteurs qui ont influencé notre image, notre mémoire. Donc, c'est la mémoire. Et pour moi, maintenant, il est devenu une mémoire de cinéma marocain. Et avec ce livre, c'est vraiment un travail magnifique. Donc, il reste toujours parmi nous. Et on ne pourrait pas effacer cette mémoire historique et la mémoire de Buanani. Donc lui, c'était, même dans ses écrits à souffle, ses poèmes à souffle, toujours à la recherche de la base. On est sur quoi? Parce qu'on n'avait rien après. Même, on cherchait, on n'avait même pas l'armée, on n'avait rien du tout. Et la politique s'est faite entre 56 et 63 avec l'arrivée de Hassan II, et ça a changé, ça a donné autre chose, et l'histoire est récente et bien connue.
La représentation de ce qui reste des mots quand ils sont vidés de sens. Par exemple, il dit « Pour moi, toutes les langues sont étrangères. Elles ressemblent à des mustangs sauvages qu'il faut dresser.
Voilà. »
Je vous laisse imaginer le rodéo.
Mais je pense que ça, c'est n'importe quel grand écrivain partage cette idée de la langue.
Mais pas beaucoup, par contre je suis pas certain au niveau du cinéma.
Non.
Parce qu'au niveau du cinéma, je fais un parallèle, mais c'est ce que ça m'a évoqué. Comme tu me parles de ce qui lui était précieux dans sa façon de travailler, il y a un endroit où ça me fait, tout de suite ça m'a fait penser au Straub. Mm-hmm. Et quelque chose de cette façon de retravailler la question du langage, de retravailler la question de comment on porte le langage avec son bagage historique, culturel ou social. Et je trouve que c'est assez rare dans le cinéma, quand même, cette exigence-là.
C'est pour Buenani, par exemple, il en parle beaucoup dans son histoire du cinéma du Maroc. Il parle beaucoup de ce problème de langage, de langue, en fait, dans le cinéma, parce que c'est un problème qui s'est présenté dès le début du cinéma au Maroc, pour déjà l'époque coloniale.
Oui.
Ils ont tout essayé. À la fin, ils ont même essayé de, comme le cinéma égyptien commençait à dominer et à prendre de la place par rapport au cinéma français chez le public marocain, à l'époque coloniale. Donc, le cinéma colonial a essayé même de faire des films avec des comédiens arabes, etc. Mais ils ont fait, par exemple, l'arabe, c'était de l'arabe littéraire, classique, que les Marocains ne peuvent pas... Donc, après l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, eh ben, nous sommes toujours au Maroc dans ce problème de langue. Et pour juste éclairer les choses, ça fait que depuis quelques années seulement, mais seulement quelques années, que les institutions de l'État permettent qu'on parle le dialecte marocain dans la télévision et dans le cinéma et à la radio.
Ça commence. Dans certaines émissions...
A commencé il y a juste 4-5 ans.
Voilà, où il y a des cultivés.
Et donc, c'est-à-dire que nous avons un grave problème par rapport à la langue, parce que aucune des langues académiques n'est notre langue maternelle, que ce soit l'arabe ou le français. Les vraies langues maternelles, ce sont le berbère et le dialecte marocain, qui est un mélange de berbère, d'arabe, de français, d'espagnol, d'anglais et de plein d'autres choses.
D'accord. Et c'est beaucoup... ça, en fait, qui fait qu'à un moment, il y a une cassure dans l'histoire ou dans comment on se raconte l'histoire. Donc, il y a eu un moment de cassure.
Absolument. Absolument. Tali, c'est un exemple. Pirandello, Pasolini écrivaient en dialecte italien. Leurs pièces ou leurs poèmes, je veux dire, quand on cherche par exemple la langue italienne académique, c'est-à-dire qui est celle de toute l'Italie, elle est toute récente. Elle date de ce siècle. Presque, je ne me rappelle plus, mais c'est vraiment très... Oui, je pense qu'elle date de ce siècle. Et donc ça s'est imposé. Ça, c'est comme l'image. L'image, par exemple, chez nous n'existait pas avant. Elle était presque même interdite. Bon, personne ne l'a jamais interdit. Il n'y a jamais eu d'écrit ni rien du tout. Mais toujours est-il que nous n'avions pas d'image. Et puis... comme l'image devenait donc un médium de tous les jours, eh ben, personne ne s'est posé la question. Il n'y a jamais eu une fatwa ou un truc qui dit « Ah, ben maintenant, on va légaliser l'image. » Ça s'est imposé. Voilà. Moi, je pense que beaucoup de choses changent chez les humains par besoin économique ou économique.
Ou par désir de vie, par moment, par question de survie.
Absolument.
Mais oui, je vois ce que tu veux dire, qu'il y a quelque chose qui fait que les choses se transforment à un moment ou à un autre. Et ça, on peut le recevoir même à l'échelle de soi, quoi, sa façon de se construire. Quoi. Mais par rapport à cette question de la langue, donc, comment le cinéma a tenté d'y répondre, c'est un peu l'histoire de... Buenani, alors.
Absolument.
En tout cas, il ouvre une réflexion à cet endroit-là sur comment le cinéma peut répondre à cette question de la langue.
Ah oui, beaucoup, il a écrit beaucoup là-dessus. Il en parle tout le temps, même dans ses interviews. C'est un problème. Alors, vous pouvez voir, les premiers films marocains, produits donc au Maroc et tournés par des Marocains, le public éclatait de rire quand il les regardait. Parce que ça parlait un langage... qui n'était pas celui des Marocains. Ça parlait un arabe qui se voulait un peu entre le dialecte et l'arabe classique, mais ça ne marchait pas du tout. Et donc les gens, des moments qui pouvaient être dramatiques, ça les faisait rire parce qu'il y avait des mots qui n'étaient pas qui faisaient rire. Si je les traduis, je pourrais peut-être pas arriver à vous faire partager tout ça. Par exemple, le bus, par exemple. C'est comme si le bus Donc les gens ici, tout le monde dit le bus, et puis dans le film, le bus va devenir l'autocar.
Les contes de la charrette. Les contes de la charrette, ça a été traduit comme...
Non, je parle de film qui s'appelait Soleil de printemps, je me semblais.
Children too got their share of tenderness. Some touched them, others caressed and tickled them. Of course, there were those who
si on va plus loin dans ce que j'essayais de que je dis qu'il y a la question du cinéma muet.
Oui.
Qui déplace la question de la langue. Mm-hmm. On est d'accord.
Bien sûr.
Parce que quand on regarde les films qui ont été le plus vus au monde, les films les plus vus au monde, c'est les films de Chaplin. Mm-hmm. Parce que la question de la langue est déplacée. Mmh. Et donc ça pose la question, en tout cas nous on parle beaucoup de la langue, le cinéma c'est aussi de l'image et du son, qui n'est pas
surtout,
de la langue.
Surtout
presque.
Surtout.
Voilà. Ouais. Donc là on est là quand même ce soir avec Ali et Safi, cinéastes venant du Maroc, et après nous est permis, et j'espère que nos auditeurs le comprendront, la nécessité de passer par Bouanani et la langue. Maintenant nous allons venir à Ali et Safi et... son histoire avec le cinéma.
Moi, j'ai ma mémoire après une journée de montage.
C'est vrai que, voilà, vous nous pardonnerez, Ali était en journée de montage aujourd'hui, on l'a accueilli à la fraîche.
Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux citer... alors là, il y en a dans tous les pays.
Mais oui, ça a fait école, on peut dire.
Bien sûr, mais ça rafraîchit le langage cinématographique à chaque fois dans les pays. Et puis, moi, ce qui... m'a libéré après, donc c'est comme ça que j'ai connu Bouanani, parce que après avoir commencé quelques films, je me suis trouvé d'un seul coup coupé de mes racines, d'où je viens par rapport à l'image. Donc je suis retourné au Maroc pour faire cette recherche un petit peu, pour savoir, parce que au Maroc, on ne connaît pas la génération qui est avant nous, on n'a pas accès à leurs films. Wahib, par exemple, je suis sûr que
oui. Moi, voilà, c'est toi qui es l'intermédiaire pour que je puisse.
Tu veux dire les films des années 50, des
années 60, 50, 70.
Ah oui,
dessus de.
D'accord, ok.
Donc moi j'ai piraté plein de ces films justement pour les montrer, ouais. Parce que moi-même je les ai découverts qu'après l'âge de 40 ans.
Il n'y avait pas de réseau de distribution, rien.
C'est-à-dire qu'ils existent au centre cinématographique, ils existent au Maroc, mais. Elles ne sont pas accessibles.
D'accord. Ouais.
Donc du coup, j'ai fait un peu tout ce travail, puis je l'ai un peu prolongé pour le Maghreb, parce qu'on est la même société. Mmh. Et là, j'ai découvert la première génération de cinéastes, j'en parlais hier à Wahib, des bijoux.
Ah ouais.
Ou qui sont à un niveau d'écriture beaucoup, très très loin de moi. C'est-à-dire que je suis beaucoup en deçà de ce qui se faisait dans les années 60-70 dans la région.
Tu penses à...
Alors, par exemple, donc Bouanani en fait partie.
C'est quoi, alors, Bouanani, citons des titres.
Par exemple, Bouanani, il a fait un film qui s'appelle Mémoire 14, qui est donc une espèce de docu-fiction à base d'archives et de tournages réels, donc qui raconte, où il a essayé de raconter justement tout ce Maroc depuis... l'arrivée des Français jusqu'à avant l'arrivée des Français et pendant jusqu'à l'indépendance.
D'accord.
Le film a été censuré, il faisait 1h48. Il a été censuré, à la fin, il fait 24 minutes.
Ah ouais.
Mais même ces 24 minutes, ils ont du sens.
D'accord.
Malgré tout, ils ont du sens. Donc c'est alors là par exemple pareil, il cherche une forme de narration à partir de, comme je disais tout à l'heure, du conteur de populaire. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver, et donc il lui raconte donc cette histoire en poésie.
D'accord.
En poésie en français, mais très proche du conteur populaire. En fait, une poésie très très simplifiée, très simplifiée. Je sais pas comment. Très très juste en fait, très ouais. Intense parce qu'elle est
épurée.
Voilà, épurée, très humaine quoi. Mmh. C'est pas de la poésie docte.
Ouais.
Et donc en Algérie, j'ai trouvé un autre qui s'appelle Azdine Meddour, qui est déjà mort lui aussi, qui a fait un film magnifique lui aussi, qui a été très peu vu, censurée d'une manière non officielle, aussi bien en Algérie qu'en France, qui s'appelle « Combien je vous aime ».
Quel beau titre.
Qui est un travail formidable de détournement des archives coloniales, de propagande et autres.
Combien je vous aime, ouais. J'ai jamais entendu parler.
Voilà, le texte, narration et texte de Melk El Loula, dramaturge algérien, en dialecte algérien. Film magnifique, très très peu vu, qui existe à la Cinémathèque algérienne et il appartient à la télévision algérienne.
Oula, alors ce qui est à la Cinémathèque algérienne ne sera pas
beaucoup. Par rapport à l'Algérie, on n'y est pas. Il existe.
كيف وجدتم باريس؟ ما الدنيا؟ ما فيها كل ما تطلب. الذهب يا شيخ، الجوهر، الزريخ، النحاس. وعندهم يا شيخ خيط كيف التل يسموه تلغراف.
Aussi nombreuses que les brins que je file sont mes peines, et aussi longues que le fil que déroulent mes doigts. Ma vie durera ce que dure une quenouillée pleine, car mon cœur est aussi entouré de douleur qu'une quenouille est gonflée de laine.
On a tous été catapultés de la même manière, malgré nous, d'un monde à un autre.
Voilà,
et donc on était regardés par l'image de l'occidental de la même manière. On était regardés comme des indigènes, etc. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ces films. Ouais. Aussi en Tunisie, j'ai trouvé un bijou d'un cinéaste qui a fait qu'un seul film et qui est directeur photo, qui a après continué sa vie comme directeur photo. C'est un film pareil que personne ne connaît, y compris en Tunisie, personne ne le voit. D'ailleurs, c'est moi-même, en piratant ce film, qui ai donné une copie au réalisateur, qui a fait parvenir, qui s'appelle Ahmed Ben Nisr. Son film s'appelle Mohammadiya. Et donc, alors lui, il raconte comment les Français ont eu le bey de Tunis pour lui vendre, donc de reconstruire Versailles en Tunisie, et donc on l'endetter pour après donc voilà donc demander de rentrer protéger le truc. Et donc ces écritures là parce que eux-mêmes, Mdour, par exemple, l'Algérien, il vient de Moscou, de l'école de cinéma de Moscou.
Oui,
c'est-à-dire que tout, c'est ça, c'est-à-dire que eux, ces trois-là, ils ont eux-mêmes comme influence donc l'écriture de cinéma libre,
Stein,
voilà.
Tous les grands documentaristes de cette époque.
Absolument. Mais le fait que moi, que ça soit des cinéastes locaux et donc qui traitent d'histoire locale et avec des images qui appartiennent à mon espace-temps, moi ça m'a libéré encore plus.
D'accord.
Ça c'est la dernière partie de là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que j'ai pris des claques et j'ai appris donc beaucoup de choses, mais en même temps donc en prenant des claques ça m'a libéré et voilà, j'entrevois d'autres possibilités, d'autres pistes.
Tu où est-ce que c'est l'Islam? Ils ont une carrosse, tu marches avec le fham, le ma, le smash mendifi. Et برشا معاهم المكنات الحرير. مالا انت وين يا شيخ الاسلام؟ انا شيخ حشيد. ما شو تسميني اول حاج قلوب وانا بزو معنا.
من عاد اللي وصل حتى اللي مات دال بي ابني في صايه جديده في المحمديه قال المصطفى خصنا دار
خصنا دار نعم نحب نبني صايه جديده امر سلاطين طاع سيدي لكن وين الفلوس سيد في المجبه
الله يبارك سيدي. أما
وإذا كان ما يزيش تعرف من عبد الفرنسيس حاضر
تيك أحمد بعناني يكريفي توجور توجور يكريفي دونك سي با Il commence à écrire. Il n'a pas écrit que le scénario. Il n'a pas écrit que ce livre ou le roman ou les poèmes. Et il écrivait toujours. D'ailleurs, il était dans le comité de rédaction de la revue Souffle. Et il a écrit sur. Alors, on n'avait pas de cinéma en 68, 69. On n'avait presque rien. On n'avait pas de cinéma. Mais lui, il a créé un débat sur le cinéma national. Est-ce que quel cinéma qu'on veut? Donc, il a posé pas mal de questions de la revue Souffle. Il a rédigé pas mal d'articles dans cette revue qui était dirigée par Abdelhatif Fellahbi, qui est très connu ici en France en tant que poète et aussi en tant qu'ancien détenu politique. Donc, pour dire que, pour moi, Ahmed Bouanani écrivait toujours. Quand il trouve un moment, dans un café-bar, chez lui, il écrivait toujours. Donc, pour moi, c'est un réalisateur, monteur, dessinateur, artiste, écrivain. Donc, c'est quelqu'un qui fait tout. Je le trouve, je peux le comparer au réalisateur russe Paradanov, parce que Paradanov c'est la même chose, il fait parce qu'il était opprimé chez lui dans son pied, donc il a cherché tout le temps à trouver des moyens de s'exprimer. Si on lui interdit un film, il crée une installation. Si on lui interdit cette installation, il fait des dessins, des romans, des conférences. Donc Paradanov et Ahmed Bouanani. Sauf que les deux situations sont différentes. C'est que Paradanov, il a eu un public qui le soutenu, qui le réclame tout le temps, alors qu'Ahmed Bouanani, chez nous au Maroc, c'est presque chacun pour soi. C'est pour ça que, voilà, pour dire que Bouanani est aussi écrivain.
Mais là justement, par rapport au travail qu'a fait Bouanani, ses films, ses écrits, donc ça commence dans les années 60 à peu près. C'est comment c'est reçu au Maroc ou à cette époque dans un contexte politique particulier ou comment ces choses-là s'articulent, la difficulté qu'il a à faire les choses, le contexte politique, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire à cet endroit-là?
Oui, pour moi, Bouanani, il est toujours de gauche, avec ses idées, ses questions qu'il pose au futur du Maroc, sur l'histoire du Maroc, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes au CCM, où il était fonctionnaire au CCM, en tant que monteur. Donc, on n'a pas parlé beaucoup de film de Mémoire 14. C'est un film, pour moi, c'est extraordinaire. C'est le film que j'adore, que j'ai revu, que je le connais par cœur, ce film. Et je vous dirais que je l'ai vu en VHS, en prison. Nous, on avait le droit, en cachette, mais il ne faut pas être exposé, on pourrait voir des films. Après, ils nous ont laissé voir la télé et tout ça. Donc, malgré cette copie qui n'était pas bonne en VHS, mais quand même, pour moi, je suis resté avec mes amis là-bas. On a vu d'autres films. Et je disais que Mémoire 14, il a eu un énorme problème avec le directeur de l'époque, Omar Ghanem.
Directeur du
CCM, du Centre cinématographique marocain. C'est une institution d'État. Donc, toujours le directeur allait jusqu'à la dernière année, mais toujours le directeur est désigné par un Dahel, par le roi. Donc il a une situation très, très spéciale. Et moi, j'ai considéré tous les jusqu'à Souheym El Malka, ce sont les conservateurs de l'État. au CCM. Donc, parce que le cinéma fait peur. Et surtout le documentaire chez nous, au Maroc. Le documentaire, c'est nouveau. Donc, Ahmed Mouanani se file l'histoire avec Mémoire 14 que cette expérience, il mérite tout un film.
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce film en soi, déjà, pour qu'on... Mémoire 14,
c'est... Mémoire 14, c'est un film qui raconte l'histoire du Maroc, justement, de protectorat jusqu'à l'indépendance. Et voilà l'intelligence de Ahmed Bouanani. Après, il a repris les mêmes idées dans le livre. Tu vois, pour, seulement, dans le livre, c'est le cinéma, mais en même temps, il fait des références à l'histoire, je crois, n'est-ce pas, Touda. Et Mémoire 14, c'est un film de CCM, produit par le CCM. Le directeur de production, c'est le directeur du CCM, Omar Redlem. Donc, il est suivi partout. Donc, quand il a fait un film qui devait être un film de 1h30, le film il devenait après 28 minutes. À force de couper, de... Et Ahmed Mouanani disait que grâce au montage, il a su comment dérouler ou déraper la censure. Et à la fin, ce film, il est fait. Même en 28 minutes, on a l'idée de ce qui s'est passé dans l'histoire du Maroc. L'intelligence, c'est qu'il a travaillé avec les archives de colonisateurs de la France. Donc, comment il a traduit ces archives, comment il les a repérées, récupérées aussi, il a fait un film marocain avec un esprit critique. Comment ils nous filmaient, les colonisateurs, et comment lui, il a pu présenter cette richesse d'archives pour qu'il soit de notre patrimoine.
Regardez-les, ces femmes, ces hommes, ces enfants.
Look at these men, these women, these children, Arabs, Kabyles, Jews, Christians. For over 100 years they have lived together, or rather, they cohabited.
They have been living here together more than 100 years. They have learned many things about one another. Mutual understanding was quite easy. They spoke to each other in this language. Or in this way. Such means will be used later. Yet, the best way to make oneself understood was certainly that once invented by Colonel Lemire.
90 hommes de moins de 40 ans. Et on leur a dit, mais... Ils ont dit, eh. Et on leur a dit, mais... Ils ont dit, eh. Alors, on s'est très bien compris.
Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Que la terre enfante ou n'enfante pas, que les ruisseaux coulent de miel ou de sang, que notre regard s'aveugle ou s'arrête, notre mémoire est longue. Puisse-t-elle retrouver la cadence de nos 20 ans? Qui rançonnera cette légende de pacotille où des jeunes filles perdaient leurs chevelures dans les fontaines magiques? Qui rançonnera les matins légendaires où le ciel s'ouvrait par le ventre sur des cavaliers blancs? année de la gazelle, année des sauterelles, année du sabre et du canon, année de la bonne saison. Notre sang garde la saveur de la légende. Voici les lieux, voici les hommes, voici le champ. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
Et moi qui venais du ciné-club, j'étais responsable, donc je suis resté toujours dans le cinéma. Et à l'époque, le ciné-club, c'était presque des sectes de politique, quoi. Donc on parle cinéma politique.
Ça, vous savez, les années 70.
Oui, 70. Donc. Alors, mais bien sûr, tous mes camarades, ils connaissent que je suis un cinéphile. Donc, on parlait, je parle avec Nordine, et quand il vient, Naïma, au parloir, surtout après on avait la visite directe, parce qu'auparavant on n'avait pas la visite directe, c'était à travers les barreaux. Après que ces visites directes, c'était le moment où je sortais, je parlais avec Naïma, il me donne ce qui se passe dans le cinéma marocain, les tournages. Mais parce qu'en même temps, j'étais en relation avec Sahel, en relation avec pas mal de personnes. Donc voilà. Et quand je suis sorti de la prison, évidemment, je suis allé à la recherche des cinéastes marocains pour les rencontrer. Parce qu'il y avait pour moi une coupure de 12 ans. Et voilà, virtuel, j'avais la relation avec le cinéma, mais je voulais la mettre en vrai. Donc j'avais une liste que j'ai rencontrée, Ahmed Bouhnani, Rgab, Tazi, Latif Lehlou, donc... Je les ai rencontrés, je les ai interviewés, tu vois. Bien sûr, il y en a ceux qui ont accepté, non, parce que à ce moment-là, je faisais peur, entre guillemets, parce que... Bon, alors moi, cette rencontre, c'était un moment agréable de rencontrer Ahmed Bouhnani et de parler des anciens films que j'ai déjà vus. Donc, c'était un moment... formidable. C'est à Rabat. C'est toujours à Rabat, à Hassan. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais cette rencontre. J'ai admiré l'homme, j'ai admiré la femme. Donc je suis resté en relation. Mais bien sûr, quand Ahmed s'est retiré à l'Atlas, après des années, je suis allé le voir. Parce qu'au début, je ne voyais personne. Mais moi, après, je suis allé le voir. J'ai fait une interview. Malheureusement, la personne, le réalisateur qui devait monter le film, n'a pas fait, il a tardé. Voilà, donc je suis resté toujours en contact avec Ahmed Inaïma. Et je me déplace parfois à une autre ville, à plus de 400 km, pour les voir, pour les rencontrer, soit à Rachidia, soit à Tanger, soit à Agadir. Et voilà, c'est cet amour-là qui me pousse à aller les voir. Parce que je croyais à ces réalisateurs. Parce qu'à ce moment-là, j'ai fait deux listes. Il y a des réalisateurs avec qui je ne manquais rien du tout, mais il y a des réalisateurs avec qui je partage des idées, des... Et voilà, et c'est comme ça que s'est faite cette relation admirable avec Ahmed Bouanani et la famille Bouanani.
Parler concrètement à Bouanani par rapport à ses films, c'est le seul de sa génération qui, donc, dans chaque film, alors que lui-même est francophone, donc il écrit en français, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas lire l'arabe, il lit l'arabe, il l'écrit, mais c'est pas sa langue où il est confortable. Mais dans chacun de ses films, il a fait un effort pour, à chaque fois, pour trouver le langage qu'il fallait, de toute sa génération, c'est le seul où un Marocain peut se reconnaître dans ce qu'il entend, que ça soit du langage parlé, donc du quotidien, ou des certains films par exemple où c'est des contes poétiques. Alors là, il est allé chercher le langage de poètes populaires de l'oralité que tout le monde connaît, et donc il en a même traduit certains au français, et en fait il donnait ses scénarios et ses dialogues à écrire à d'autres, mais quand il voyait le résultat, il était très déçu, et il les donnait à des arabophones. Et il était très déçu, et donc il finissait par réécrire lui-même tout en arabe. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que même quand il écrit en français, n'importe quel Marocain qui parle marocain, quand il le lit en français, il l'entend en marocain.
Ah oui.
Ah, complètement. Et c'est exactement ce qu'il a. Il a réussi à, en fait, c'est la graphie qui est française, mais
la résonance.
Ouais. La poétique, l'esprit, il est totalement marocain, plus, beaucoup, mille fois plus que beaucoup de Marocains qui écrivent en arabe, j'ai pu lire.
Ah ouais, là ça... Ah
ça
oui.
C'est très très fort.
Ah oui,
ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à écrire en français à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, à part certains créoles. Peut-être.
Ah non, je pensais à ça.
Il y a cette école-là.
Il y a cette école-là
qui est venue plus tard. Hein.
Oui, qui est venue plus tard.
Voilà. Mais Patrick Chamoiseau,
Édouard Glissant.
Voilà, mais c'est venu plus tard.
C'est venu plus tard. Parce qu'à un moment, ça m'a fait penser un peu, mais finalement, non, c'est pas ça. Ça m'a fait penser un peu à ce travail qu'avait tenté, mais au niveau du théâtre, Kateb Yassine.
Alors, mais. Voilà. Si, il y a eu un début là, et puis il y a aussi un Français qui a été oublié dans l'histoire.
Sénac,
non. Sénac, pardon.
Sénac,
exactement.
Voilà. Oui,
Jean Sénac.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais,
Jean Sénac et toute la clique qui était autour de lui par rapport à cette histoire de langue. C'est pas parce qu'on parle ou pas le dialecte local qu'on va trouver une écriture en français qui traduit l'esprit. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la preuve, vous n'avez qu'à lire Tahar Ben Jelloun, il est pris Goncourt. Il est même traducteur de l'arabe au français. Son français, il est
académique.
Voilà.
Il restera académique.
Et donc, c'est pas du français. Il n'a pas trouvé ce que Bouhanani a trouvé. Que je veux dire.
D'accord. Ok. En tout cas, c'est une
problématique immense. Hein.
C'est une problématique immense. Donc, on va recentrer la chose après avoir. Est-ce que la question du cinéma est liée à la question de la langue, mais pas que.
Mais la langue, quand même, elle est essentielle.
Elle est essentielle.
C'est-à-dire que vous prenez un film américain, même si on met dans la bouche. Des comédiens hollywoodiens de l'anglais british, ça ne marche pas.
Tout à fait.
دولة الفرنسيس تعطيك مهندس باش يعمل بيانو للسرايا والتليغراف.
زاد مصفى خزندار في الزبلة والخروبة وزاد في المجبة وزاد في العشر وباع الصابة صابة القمح والزيتون وش البي يجبد من الخزنة وكيف ما تقول ناس بكري اجبد ما ترد الجبال تتهب حتى لين فدت الناس.
Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent. Voici les lieux, voici les hommes, voici le champ. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent.
Ouais, pour revenir...
Moi je découvre cette revue, Njuma, et c'est une mine de...
Une revue marocaine. Nejma, c'est une revue marocaine contemporaine.
C'est une revue littéraire, en fait, une des rares au Maroc, qui est éditée par un libraire, ce qui est rare au Maroc, un libraire de Tanger, qui est français. Je crois que c'est la librairie des Colonnes. Ouais, c'est ça. Et donc, il édite cette revue littéraire depuis. C'est, là, par exemple, c'est le 9e numéro, donc ça fait 4 ans, à peu près, que c'est édité. Et donc, ce numéro en particulier, il est, et c'est ça la particularité de cette revue, c'est qu'elle est complètement engagée dans... donc, chaque numéro est vraiment dédié à approfondir un auteur ou une question littéraire. Et là, ce numéro en l'occurrence, de le numéro 9, il est dédié à Ahmed Bouhanani. Et notre ami Wahib donc est en train de découvrir ce...
Moi, je l'ai cherché, je l'ai trouvé au Mucem l'année 2014 où on s'était rencontrés. Je l'avais acheté et plus tard, j'ai découvert à travers ça, justement, en suivant un peu la... Parce que on ne peut pas lire ça comme une revue ordinaire.
Ah non, c'est un livre.
C'est un livre qui serait demain très important pour les futurs chercheurs.
Complètement.
En histoire de biographie, de cinéma.
Complètement. Alors, si je peux juste ajouter ça, donc j'ai oublié, parce que chaque numéro donc est l'édition est accordée donc à quelqu'un qui est très très proche de du contenu en question. Là, par exemple, en l'occurrence, c'est Touda Bouanani, donc la fille de Ahmed Bouanani, qui était donc l'éditrice donc donc c'est elle qui a conçu et qui a donc réalisé en fait en quelque sorte tout ce le premier texte dans Nijma justement de Souda, ça s'appelle Mémoire sauvée du feu et en fait ça raconte un peu dès le début de ce livre un des plus importants. Donc il y en a eu beaucoup dans la vie de Ahmed Bouanani, où donc son appartement où il y avait tous ses manuscrits, ses collections, etc. Donc il a brûlé une nuit. Eux, ils n'étaient pas à l'appartement parce qu'ils habitaient déjà à la montagne. Ahmed Bouanani s'est exilé là-bas après le décès d'une de ses filles, qui était un autre drame. Et donc, quelques années après, l'appartement a pris feu. Et donc,
on est au sud de Marocain, dans les régions de l'Atlas moyen.
Voilà, c'est là où il s'est exilé, donc à Demnet.
Demnet,
à Ait Soumrar. À Ait Soumrar.
Dans le petit village.
Voilà. Et en fait, le drame dans tout ça, c'est que Ahmed Bouanani, donc comme il était il était censuré, mais aussi très exigeant. Et donc, comme il n'y avait pas d'éditeur, etc., donc il écrivait sans cesse. Donc, il a laissé des tonnes de manuscrits, en espérant qu'un jour, peut-être. Une partie est partie en feu, donc en fumée, dans cet appartement. Et malgré ça, ce qu'on a, parce que Touda, donc sa fille, du coup, elle vivait en France, elle est revenue au Maroc pour s'occuper en fait un peu de tout ce lait, quoi, de tout cet héritage. Et elle a fait un travail formidable. Je lui ai donné un coup de main aussi sur certains manuscrits, surtout la septième porte. Mais elle s'est tapée un travail incroyable. Et donc, depuis la mort de Bouanani, donc il y a déjà 5 ans ou 6 ans, elle n'a pas encore fait le tour de tout ce qu'il a laissé. Mais ce qu'elle a répertorié déjà, donc il y a au moins 5-6 romans, plusieurs scénarios, beaucoup de recueils de nouvelles et de poèmes. Et des contes. Pas encore fait le tour. Je ne sais pas encore, à chaque fois on est surpris par quelque chose. Et dans tout le tas, donc notre bonheur à Touda et à moi, c'est que l'histoire du cinéma au Maroc, la septième porte, a survécu. Et un de ses romans le plus important sur lequel il a travaillé de 1966 jusqu'à 2003, qui est passé d'une conception à une autre et qui aujourd'hui donc existe, qui s'appelle Le voleur de mémoire, en 3 tomes. Et donc c'est le roman de sa vie, et en fait il a été sauvé et il va un jour ou l'autre être édité.
Voilà, quelle plus belle manière pour finir une émission que d'être à un endroit où on retrouve des traces de l'histoire, mais pas de cette grande histoire dont on nous parle tout le temps, mais de cette petite histoire, mais qui est immense, qui est tellement grosse. On va terminer par un texte. Peut-être une petite phrase quand même de cette revue Nejma, qui Nejma, c'est un des personnages principaux des livres de Kateb Yassin, je crois. C'était son amoureuse, on va dire, dans la fiction et dans le réel. On pense à Bouanani, ouais. Ça fait vachement penser ouais, à Katab Yassine, des fois c'est même Jean Genet, Faulkner ou des...
Mais aussi Nejma, c'est une reprise parce qu'il a existé au Maroc une revue littéraire qui s'appelait Nejma, mais qui a vite disparu comme beaucoup de revues littéraires au Maroc.
D'accord. Alors pour finir, quelques mots. Wahib, aurais-tu un texte à nous lire ?
Alors à son année de naissance peut-être, il dit quand je viens au monde en 1938, le pays n'avait plus d'histoire ni d'aïeux. C'était une poubelle où des soldats en fuite qui pataugeaient dans la crasse et adoraient un dieu. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que notre dieu ? C'est un mammifère. Un analphabète aux mains de sang. Les haines aux planètes somnifères pétant le confre et l'encre.
Et l'encre.
C'était...
Et l'encens. Le confre et l'encens.
Nous étions sur Radio Galère 88.4 avec Wahib Mortada, Ali et Safi. Nous souhaitons une bonne fin de soirée.
Cego na cobra, e cego preso na gaiola da visão. Asa com casa, تبقى 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 تبقى